Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau week-end en votre compagnie. Vous le savez désormais, Goodlux, c'est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve en direct dès 13h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et aujourd'hui, bah oui, quand même, on espère que ça va être deux saisons. On vous offre une petite glace. Et autant vous dire qu'à Paris, les choses ont bougé et que les propositions se multiplient, artisans traditionnels ou glaciers futuristes. Vous avez désormais l'embarras du choix. Petite sélection dans un instant où vous apprendrez qu'il existe autre chose que le cornet et le parfum vanille chocolat avec une glace à Paris, glace glazed, ice roll ou encore nitrogénie. Tout un programme, mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et traditionnellement, Emmanuel, les nouveautés de la semaine, on commence par la petite table de la semaine.
Alors, petite table, vaste table. On peut même dire que c'est
une... Vaste terrasse, surtout.
Vaste terrasse. À Paris, donc, du côté du musée des arts décoratifs. Vous savez, c'est entrée par la rue de Rivoli, mais derrière, il y a toute l'esplanade du Louvre, puisqu'on est vraiment dans toute cette cette panorama du Louvre. Il y avait jusqu'ici un restaurant qui s'appelait le Sceau du Louvre. Il a été débaptisé. Totalement relooké, ça s'appelle désormais Loulou. Alors, un sacré casting aux commandes. On retrouve la bande du Monsieur Bleu, Gilles Malafosse, qui possède plusieurs adresses à Paris, Laurent de Courcuff, le Mister Nuit parisienne, Benjamin Casson, entouré pour l'architecture, le design de Joseph Diran, de Benoît Daguerre, lui c'est pour le côté chef, culinaire. L'identité visuelle a été confiée en partie à Jean-Charles de Castelbajac, qui s'est amusé à dessiner comme cela des personnages autour de cette idée de Loulou. Et puis, Alexis Mabille pour le stylisme du personnel.
Rien que ça. Bah, alors, donc, c'est, si ouais. C'est pas du name dropping, ça.
Oui. Mais alors, ils ont fait plutôt les choses très réussies. D'abord, deux étages, un joli décor. On est vraiment dans l'esprit de la brasserie contemporaine avec quelques pièces de design. On est quand même au musée des Arts Déco. Alors, à touche-touche, ils rendent hommage à quelques pièces. Et puis, cette terrasse, c'est le plus beau cabriolet de la capitale. 200 places.
200 places.
Vous êtes dans le dos de
ombre,
certaines ailes.
Ombre ou soleil.
Ah, vous pouvez tout avoir. Mais c'est vrai, non, c'est vraiment une terrasse où les tables se tiennent en plus à distance. C'est-à-dire qu'effectivement, 200 couverts, mais 200 couverts où vous n'êtes pas collés serrés. Alors bien sûr, autour de vous, tout ce qui fait la magie du Louvre, l'ex-cour carré, la pyramide, les ailes.
Mais est-ce qu'on y mange bien? Parce que parfois, avec le décor, on oublie l'assiette.
Le Sceau du Louvre, c'était tout le problème. La cuisine, elle faisait du farniente. Ça prouve qu'elle roupillait sous le parasol. Là, ils ont une très bonne idée. C'est la cuisine de plein air, celle qui lui va bien, c'est la cuisine italienne. Donc la cuisine, elle est d'abord et surtout très solaire, très italienne, avec un bon chef qui vient directement d'Italie, qui avait fait ses armes et ses classes, et mieux que ses classes en Italie. Et donc c'est vrai que cette cuisine, ça va être des artichauts violets à cru. C'est bien sûr l'osso buco, c'est bien sûr la côte de veau à la milanaise. C'est beaucoup de salade avec juste comme ça le filet d'huile d'olive et puis un petit peu aussi on pousse l'Italie jusqu'à la cuisine niçarde, c'est-à-dire jusqu'à Nice avec la salade de thon frais comme à Nice, c'est-à-dire la salade niçoise. Non, ils ont eu l'idée de faire une cuisine de farniente, une cuisine du soleil. C'est pour l'instant très réussi. Mais Monsieur Bleu, qui est leur première adresse à cette bande-là, vous savez, alors là pareil, superbe esplanade du côté du Palais de Chaillot, face à face Tour Eiffel, ils réussissent des coups, des jolis coups, ça va être une des très très belles terrasses si le soleil veut bien se mettre de la partie.
Loulou.
Loulou.
Ça s'appelle. Eh ben, on va continuer pour les petits Loulou cette fois. Je vous emmène chez Kidiliz. Kidiliz, qu'est-ce que c'est? C'est un concept store, le concept store du groupe Zanier. Zanier qui possède les licences de nombreuses marques, une quinzaine, je crois, de marques pour enfants, de marques haut de gamme, attention, pour enfants. Kenzo Kid, Jean-Paul Gaultier, Paul Smith, Soussa Junior, Lily Gaufrette, Catimini, Levis, Chippy, mais aussi Jean Bourget, une marque française moins connue. Et pour les bébés, Absorba, de très belles marques. Donc, et l'idée de ce concept store qui a désormais ouvert 144 rue de Courcelles, donc dans les beaux quartiers, dans le 17e, il y avait déjà le site e-commerce. L'idée, c'est qu'il mélange les marques. Donc, vous pouvez vraiment... Du coup, il vous propose aussi ce qu'on appelle du mix and match. C'est-à-dire que... On vous propose sur les mannequins justement d'avoir un petit pantalon Lily Gaufrette, une petite veste Levi's, un petit t-shirt Kenzo, et du coup effectivement vous n'êtes pas en total brand, en total marque, et ça va jusqu'aux 12-14 ans même pour certaines marques juniors, donc ça c'est pas mal non plus. C'est Kidiliz à Paris, il y a un réseau en franchise dans toute la France, donc un beau concept store qui se déploie et qui se multiplie. Ça fait 180 mètres carrés quand même à Paris, donc c'est un bel espace, vitré, etc., design, assez sympa. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Les
Philippe Renoir, bonjour.
Bonjour à vous.
Comment allez-vous? Alors,
très bien.
C'est vrai que j'ai parlé d'un site de e-commerce, pardon, j'ai empiété un peu sur vos plateformes, mais
non,
allez-y.
Je partage. D'abord, une nouveauté, lancement d'Apiculture Collection. Alors, ce sont des hôtels, mais pas que, c'est aussi tout plein de services. Alors, en réservant, tout d'abord, vous allez avoir la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube de la marque, donc Collection, je m'appelle Hôtel Apiculture Collection. Vous avez les playlists de chaque hôtel, ce qui vous permet de savoir un petit peu l'ambiance de l'hôtel grâce au son. Donc, il y a ambiance lounge, ambiance contemporaine, ambiance ceci, cela. Et on est un petit peu décideur de l'hôtel où on va aller en fonction de notre sensibilité auditive. Je trouve ça plutôt pas mal. Par ailleurs, lors de notre séjour, on va pouvoir dormir dans un hôtel, aller prendre un parapluie s'il se met à pleuvoir dans un autre hôtel, poser nos sacs de courses dans un troisième si on va au restaurant après.
Il faut juste qu'il fasse partie du réseau.
Il faut qu'il fasse partie du réseau et l'ensemble de ces hôtels sont à notre disposition. Il y a encore un nouveau truc, c'est que tous les jours, il y a des petits goûters, des apéros organisés dans chacun des hôtels du groupe qui sont évidemment offerts et on va pouvoir tous les faire si on veut. Bon voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de services, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle Apiculture Collection, le site c'est apiculture.com et puis il y a une application gratuite disponible sous iOS et Android bien sûr.
Hôtel à Paris mais pas seulement.
Pas seulement évidemment, partout en France.
Alors si on donne quelques exemples de ces hôtels parisiens qui font partie du réseau Apiculture, j'ai vu
le Joséphine. Je sais pas si je voulais entendre la musique de Joséphine.
Si on entend
On l'entend. Je ne l'entends pas. Je suis sourde. Mon audition.
J'ai trop écouté la playlist avec le casque.
Donc vous pouvez prendre le Tea Time au Air Kipling Hotel, l'instant pâtisserie au Axel Opéra, puis une coupe de champagne au Sacha et vous passez aussi par Joséphine piquer un parapluie par exemple. C'est et ça s'appelle donc Apiculture Collection, un beau service hôtelier désormais. Allez, un autre site.
Alors l'autre site c'est meetmeout.fr, un site qui va permettre de réunir les gens, une start-up donc un peu plus humaine, ça fait du bien en ce moment. On réunit les gens pour tout un tas d'activités culturelles, ça peut être du sport, des garden parties, des pièces de théâtre, voilà, pas mal de choses comme ça. Ce qui est plutôt pas mal fichu là-dedans, c'est qu'en fait le site va automatiquement référencer vos goûts, vos recherches pour vous sortir des événements qui vous correspondent et même pour mettre en relation les gens, va faire coïncider avec votre profil d'autres personnes qui sont susceptibles d'avoir les mêmes envies que vous. Ça s'appelle meetmeout.fr.
Ouais, c'est une sorte de site de rencontre parapluie.
Non, vraiment, c'est culturel. Non, j'en aurais pas parlé sinon. Là, c'est vraiment culturel.
C'est le Google culturel. Super, bravo, continuez.
Peut-être
au revoir.
Un site qui va encore plus intéresser
Emmanuel.
On se retrouve à court.
Ça y est, là, c'est... Alors, ça s'appelle goût.fr, G-O-O-T. C'est si vous êtes dans une soirée que tout se passe bien, il n'y a plus de vin, de spiritueux, de soft même, ou de bière, vous n'en allez pas, vous appelez goût.fr, c'est livré en une heure chez vous à Paris, de jour comme de nuit. Alors évidemment, de jour, vous pouvez aller récupérer votre bouteille en magasin. C'est le même prix qu'en magasin, d'ailleurs, je le dis. Que vous dire d'autre sur ce site-là?
Bordeaux, Lyon et Toulouse aussi.
Donc, Bordeaux, Lyon, Toulouse. Durant une heure, si on est en panne sèche,
vous êtes à l'autre
conversation.
Ouais, pendant une heure. Une heure, c'est quand même vraiment pas long. Deux jours comme deux nuits.
Pour soirées,
la possibilité aussi d'échanger avec un professionnel de jour, évidemment, pour vous faire conseiller sur les bouteilles en fonction des plats que vous allez préparer. Voilà, non, c'est un joli service.
Parce
là encore.
Parce que 160 cavistes sont partenaires de ce site.
Oui, plus de 15 000 références. À des cavistes à Nantes. Mais
non, bien sûr, 15 000 références, non, c'est assez.
Voilà,
c'est pour ça que je savais que ça allait vous plaire.
Bien sûr, à consommer avec modération. Mais Sandy Prenoir, on ne la consomme pas avec modération, si j'ose dire.
La semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Merci Sandy. Allez, un truc pour vous les hommes, Emmanuel.
Oui, étonnant. Alors, surtout de ma part, ça s'appelle Gentleman. Avec un chiffre derrière, j'ai oublié le chiffre.
1919.
Nous sommes rue d'Artois, dans le 8e arrondissement. Alors, c'est un centre de remise en forme, un spa. Un spa avec des protocoles dédiés aux hommes. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, le barbershop qui accompagne. Mais ce que j'ai bien aimé, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de lieu dédié à l'affaire, c'est que c'est d'abord et surtout aussi une cigar room, un lieu pour avanophiles.
Oui, parce que je me disais, le barbershop, vous ne l'avez pas testé là.
J'aurais pu commencer par le commencement. En fait, ça fait longtemps, vous savez, il y a eu une vraie tendance du cigare. Et puis c'est vrai que ça s'est un petit peu épuisé ces dernières saisons, certainement avec la législation. Aujourd'hui, ce sont les amateurs vraiment accros qui se retrouvent entre eux. Mais ça manque cruellement aussi depuis que les restaurants n'accueillent plus véritablement.
Là, vous avez vraiment une cigar room. On rase la barre, mais en plus, vous pouvez fumer un cigare.
Savez, on glisse un peu dans ce fantasme, j'allais dire, du cinéma hollywoodien, notamment de l'été une fois en Amérique, où les hommes se font un petit peu chouchouter en même temps qu'ils fument des gros barreaux. également aussi les films de, 19, 19. Avec Clint Eastwood là.
Je rectifie, c'est 11 rue Jean Mermoz dans le 8e.
Pourquoi j'ai dit rue d'Artois?
Ouais, mais je sais pas.
Bon, c'est pas loin. Mais ouais, 11 rue Jean Mermoz dans le 8e, 19-19, c'est pareil, cigare groupe. C'est tout ça une histoire de vapeur. Mais chacun choisit sa vapeur.
En tout cas, pour vous,
la mienne,
les hommes,
sentira le cubain.
Et pour nous, les femmes, le petit objet de la semaine, je vous rappelle, la semaine prochaine,
bien
c'est
évidemment
la fête des mères.
Ah oui, c'est ça.
C'est pas grand-chose, un petit coquillage Buccellati.
Non, mais quand j'entends Buccellati...
Buccellati, vous voyez ce que je veux dire, le grand joaillier italien. Et là, je trouve un objet d'une poésie. C'est un petit coquillage en argent. Donc, par exemple, ces fameux coquillages comme ça, comme des escargots.
Un peu torsadé, ouais.
Ouais, un peu torsadé. Je connais pas le nom scientifique. Mais donc, les coquillages s'inspirent des joyaux de la mer pour sa collection. Et ils ont créer un procédé, c'est vraiment recouvert d'argent. Ce sont de vrais coquillages.
Ah, de vrais coquillages.
Véritablement
plaqué
recouvert d'argent, une technique de gravure qui permet de magnifier chaque bijou. Et alors, c'est absolument magnifique parce qu'on voit toutes les cerises. Vous savez, sur les coquillages, il y a toutes ces cerises. On s'y croirait. C'est gravé à la main. 290 euros. Et parce que là, je vous parle de ce petit coquillage.
290 euros. Attendez, on est quand même, on rappelle, là, on est chez Buccellati, on est quand même dans les grands noms. Hein. On est dans l'aristocratie.
Et vous savez, il y a des coquillages très tarabiscotés, très compliqués. Et puis, même ceux-là, ils vous les font. Et c'est magnifique. Ou simplement, je trouve ça sublime et original.
J'espère que Monsieur Vermiol vous écoute.
Ben voilà, c'est le petit
week-end.
Au passage. En tout cas, en attendant, nous, on va se payer une glace. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Vergniaud et Emmanuel Rubin.
Et des Good Lux glacés cette semaine. Quand la nouvelle génération de glacés prend d'assaut la capitale, vous allez voir ce que ça donne. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Rion, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Une Glace à Paris, d'Henri Guittet, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Glace Glazed. C'est un vrai supplice de prononciation, ces noms. Vous allez voir, ça continue. David Musset, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Nitrogénie et Quentin Bourdonnet, fondateur de Ice Roll, en bon français. Tout ça, ce sont des concepts français que l'on retrouve à Paris en ce moment. J'ai presque envie de commencer, pardon sans vous froisser, par le plus classique, mais...
Je suis pas froissé.
Mais, Emmanuel Rion, et pour cause, vous venez de ces grandes maisons. Vous êtes meilleur ouvrier de France, glacier 2000, champion du monde de pâtisserie, j'en oublie.
Ouais, deux, trois petites choses, mais c'est...
Deux, trois petites choses, mais c'est déjà pas mal. Voilà. C'est ça pour dire que le niveau que vous en avez vu d'autres en termes de glace. Et donc, vous avez lancé avec le pâtissier Olivier Ménard, qui lui aussi est passé par de grandes maisons. Il y a à peu près, dis-moi, il y a une petite année, vous avez lancé une glace à Paris. Et l'idée, c'est que la glace, ça peut se décliner à l'envi toute l'année.
C'est exactement ça.
Sauf qu'il faut qu'elle soit forcément de qualité.
Ah bah c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, une glace de qualité, oui, avec des très bons produits. Et
en... Ça veut dire quoi, une glace de qualité?
Une glace de qualité, qu'est-ce qu'une glace déjà?
Voilà, qu'est-ce qu'une glace?
Une crème glacée, si on parle de crème glacée, donc il y a plusieurs choses. Il y a les crèmes glacées, les glaces aux œufs, si on va vraiment dans la technologie, et les sorbets, en gros, hein, okay. Il y a trois familles. Nous, moi j'ai pris le parti de travailler de la crème glacée, donc on ne travaille pratiquement pas avec des œufs, parce qu'il y a de plus en plus d'allergiques. Je trouve que ça dénature aussi le goût si on utilise des vanilles, si on utilise des vanilles quand même de très grande qualité. Donc, si on met des jaunes, on joue un peu sur le goût. Donc, nous, le parti pris, c'est crème glacée et sorbet.
D'accord.
Donc, crème glacée.
Pardon, vous avez juste oublié de parler de l'azote aussi, mais ça, bon, c'est une autre histoire. C'est, on en parlera.
Je pense qu'il en parlera mieux.
Je pense qu'il y a des azots qui vont en parler. On va y venir, vous inquiétez pas. Juste, vous dites, la crème glacée. Et c'est d'abord le sourcilieux du produit, l'exigence du produit. Quelle crème on choisit pour faire une grande glace?
Déjà, on a du lait
entier. Je
crois
que c'est quand même l'un de vos grands combats, c'est la traçabilité de vos crèmes.
Voilà, donc on a du bon lait.
Du bon lait, pardon.
Une bonne crème, 35% de matière grasse, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps en France. Il peut y avoir, dans certains pays, où on monte sur du 40%, mais bon, en France, c'est du 35%, donc crème fleurette de très grande qualité. Ensuite, on a des sucres différents, des glucoses atomisées, du sucre saccharose, sucre de référence, de la trimoline, qui peut aussi jouer dedans. Et ensuite, on a tout ce qui est arôme. Après, c'est vanille, chocolat, ça peut être de la pâte de noisette, pâte de pistache, fleur d'oranger. Enfin,
ouais,
c'est à l'infini.
Vous avez combien de parfums en ce moment?
En ce moment, on doit avoir 28 parfums, je pense.
Alors, c'est vrai que vous avez joué aussi dès le départ sur cette idée que la glace était toute l'année. Alors, on le sait finalement, parce que quand vient les beaux jours, on s'amuse à en sortir plus. Et puis, il y a un peu le moment de Noël ou le moment des fêtes, on va peut-être aller du côté des desserts, des entremets glacés. Mais vous, vous dites que vraiment, ils vont raconter cette histoire que la glace est toute l'année, et qu'il y a d'ailleurs, bien sûr, des saisonnalités de produits, de parfums, mais qu'il y a aussi peut-être des glaces dédiées à des moments de l'année, à des saisons, je sais pas.
Bah, ce qui est intéressant avec la glace, c'est qu'on peut faire tout. C'est-à-dire qu'on peut faire autant des glaces au pain d'épices pour Noël, par exemple, on peut faire des glaces à la tomate, des sorbets à la tomate pour l'été, on peut faire aux légumes, enfin je veux dire c'est infini. Là on va lancer une glace vegan à partir de choucal souché et pommes, voilà. Donc là on utilisera une crème végétale.
Ça
c'est pour vraiment
une
sorte de... Non, c'est intéressant, après il y a des gens qui avec les allergies, maintenant on est obligé aussi de s'adapter.
Ouais.
Donc on va lancer ça, quoi. Donc je veux dire c'est infini, donc il y a chaque saison a son parfum, et de plus en plus on se rend compte qu'en France les gens vont consommer de la glace. Consomment et vont consommer de la glace de plus en plus.
C'est-à-dire, c'est aussi une glace dessert. On n'a pas seulement. Parce que glace, on pense souvent ou le cornet ou le pot de glace.
Quand
vient
l'été.
Mieux, la
quand vient
l'été.
Quand
vient
l'été. C'est l'inverse. On pense plutôt à l'entremets, au gâteau glacé.
C'est pour cette raison que j'allais y venir.
Pardon,
donc,
excusez-moi, je suis incorrigible.
Parfait. Nougatine, vacherin, omelette norvégienne, nougat glacé. C'est tout ceci aussi que vous avez développé, voilà. Toute cette offre-là.
En fait, une glace à Paris, c'est quoi? C'est l'univers du métier de glacier. Donc, ça va sur les glaces à emporter, boule, cornet, pot, en passant par l'entremets qu'on va partager en famille ou avec des amis, et en passant bien sûr par les fêtes, tout ce qui est bûche glacée, galette glacée, on a lancé la galette glacée l'année passée à Paris, et ensuite tout ce qui accompagne, petit four, donc les langues de chat, les choses comme ça.
Et vous travaillez comment à quatre mains avec un pâtissier qui lui est vraiment pâtissier? Est-ce que lui fait les pâtisseries?
Non,
et vous,
Olivier,
est-ce que vous travaillez à un moment donné, vous coordonnez, vous créez ensemble, dessert commun?
On discute beaucoup des parfums ensemble, chacun a ses idées, et ensuite Olivier s'occupe plus de la partie magasin, moi je m'occupe plus de la création. Est partie la
production. Un mot quand même sur le magasin, parce que esprit loft, design, épuré, on est aussi dans un autre univers. On salue ici les Bertillon et consorts de la place parisienne, mais c'est vrai qu'on entre aussi, avec vous tous d'ailleurs, on va le voir, dans un autre univers où la glace sort un petit peu de cet esprit.
Je pense que la glace a été souvent un peu ringardisée par les lieux. Non, mais voilà, par les lieux de vente. Quand on regarde, surtout si on est sur des endroits touristiques, on est quand même souvent sur un design qui est quand même pas très heureux. Enfin, à mon goût. Hein.
Oui.
Et nous, on a voulu
complètement contreplaqqué. Soit il a un petit peu. Il a un peu daté parfois. Il
voilà,
a un coup
souvent,
de patin.
Et souvent, on va utiliser des couleurs de flashy pour vendre de la glace, alors que nous, on a pris un parti de rendre cette glace plutôt dans un cadre luxueux, accessible, parce qu'une boule de glace, tout le monde peut s'acheter de la glace. Hein, je veux dire, on n'est pas sur des prix, on n'est pas sur 300 euros à une boule de glace.
C'est combien une boule?
On est à 3,80.
La boule.
Ouais,
quand même.
Mais elle fait 80 grammes.
Oui, et puis c'est... Non, sincèrement, je peux le dire. Pour avoir goûté tout de même, non, c'est de la haute densité, c'est de la haute définition. Quand on vous parle... Alors, je n'ai pas goûté le choucal, excusez-moi, mais...
Non, mais
c'est très intéressant, parce que quand on parle de la vanille... vous allez voir ce que c'est qu'une vanille.
Non, d'ailleurs, il n'y a pas une vanille. Il y a la vanille Mexique Papantla, la vanille fumée d'Inde et la vanille du Congo.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de vanille calédonienne. Ça va arriver. Simplement, donc on le voit, vous pouvez pousser loin dans les arômes, dans les saveurs, mais c'est aussi, je pense, ça je salue, une glace à Paris, c'est aussi d'avoir réhabilité un petit peu quelques grands classiques de la pâtisserie ou de l'entremets glacé français, à commencer par un qu'on avait perdu de vue, et d'ailleurs, il fait florès à Paris, aux tables des restaurants, on commence à le voir un peu partout. Alors, il n'y a pas le niveau de la vôtre, mais c'est l'omelette norvégienne. Il faut nous la raconter, c'est un peu ce qui vous a lancé.
Alors, non, vous savez, vous allez garder la recette pour plus tard.
Ouais, voilà, parce que là, on était parti, il y en a d'autres. Allez,
ouais,
on va chez les rockers, là.
Non, je voulais juste raconter que, en tout cas, véritable engouement pour la glace en ce moment, aussi du côté justement des pâtissiers et les glaces des chefs pâtissiers. Là aussi, ils se sont dit waouh, ça bouge sur la place parisienne, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y avait Pierre Armé qui avait installé son bar glacier au Galeries Lafayette, il a fait Miss Glagla. Christophe Michalak, que je recevais cette semaine, qui a lancé ses Ice Cream avec un K. Je sens que votre skimo va venir. Christophe Adam, c'est le chougé glacé. Là, c'est encore aussi un dessert avec plein de choses.
Attention avec les noms, ils vont finir par glisser un
la
peu.
La pâtisserie des rêves à son mif glacier. Il y a Pierre Marcolini aussi. Enfin bref, ils s'y sont tous mis avec des choses absolument formidables. Je sens que ça va vous faire réagir.
Pas tous.
Si, en tout cas, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il y a autre chose que la glace vanille chocolat.
D'accord.
Voilà, vous pouvez répondre. Henri Guité, Skimo, S-K-I-M-O, vous, c'est votre version de l'Eskimo chez Glasgow. C'est quoi le principe de base de Glasgow?
Le principe, 2011 c'était de, un petit peu comme Emmanuel, mais dans une dimension un peu plus rock'n'roll, de dépoussiérer un peu le métier de glacier et puis l'offre qu'on voyait. Parce qu'effectivement... Moi, enfant, je voyais sur les bords de mer les glaces Schtroumpf, les trucs comme ça, etc. Et c'est assez impressionnant dans tous les sens. Et nous, ce qu'on voulait, enfin ce que je voulais en créant Glazed, c'était créer des alliances et construire en fait des parfums qui ont des longueurs en bouche beaucoup plus longues qu'une simple glace vanille.
Et un peu moins après, chimique que la vanille, Schtroumpf.
Mais voilà, essayer de jouer un petit peu sur les cocktails, la mixologie, etc.
C'est ce que je veux dire, il y a un côté cocktail d'ailleurs, on va le voir, il y a quelques parfums qui renvoient directement au cocktail.
Voilà, ouais, on associe du chanvre avec de la vanille pour le croustillant, pour les notes de céréales toastées, on rajoute du citron vert avec du sumac à la framboise pour jouer sur l'acidité. Du piment d'Espelette avec la mangue pour en fait booster un peu le côté un peu douceâtre de la mangue qui me déplaisait. Donc en fait on essaye de créer des combinaisons et des alliances pour amener une émotion gustative un peu différente.
Et donc, toujours une tectonique un peu, toujours une base classique, on va dire, fruit qu'on attend comme la mangue, et puis twisté par quelque chose d'un peu plus inattendu.
Exactement. Une épice, Exactement. Non, pour essayer, alors ça c'est la base de démarrage pour essayer. Parce que ça reste un produit de festif et puis on veut se faire plaisir, donc il faut que ça soit accessible en termes de prix, mais aussi en termes de... On saute le pas pour aller vers quelque chose. Et après, au fur et à mesure de nos 3-4 années d'expérience, en fait, on commence à étoffer la gamme en jouant plus. On a commencé l'hiver dernier sur les légumes, donc potimarron, fève tonka, chou-fleur, garam masala, etc., framboise... framboise, harissa et poivron. Donc on essaie de jouer, enfin effectivement les territoires sont infinis, on peut jouer avec toute la gamme de tous les aliments, les légumes, les fruits, les alcools. L'alcool a une belle propriété sur la glace qui il rend quand même une texture
comme il y en a parfois dans les desserts. Voilà. Certains pâtissiers me disaient qu'ils l'avaient un peu oublié ces dernières années, qu'ils retrouvaient les vertus de certains alcools qui vont accompagner, exhauster certains desserts.
Souvent c'était des mauvais alcools utilisés. D'ailleurs
toute la nouvelle génération. Merci, aussi, des mixologues. Ils ont soigné un petit peu la traçabilité de leurs alcools, qui fait que certains cocktails se révèlent aujourd'hui parce qu'enfin, on découvre des gins qui sont des vrais gins, qui explosent de...
Exactement.
Juste, on parle aussi de glace artisanale. Ouais. Sur la forme, on le voit, vous allez un peu loin, vous poussez peut-être notre palette aromatique dans ces derniers retranchements. Mais au niveau artisanal, qu'est-ce qui fait que ça reste une glace artisanale?
Bah, c'est que c'est fait, en fait, avec nos mains et juste...
on utilise les produits.
Les produits, en fait, on les
source. Fait main. Si je fais de la glace main, elle sera faite main. Vous allez voir l'allure.
Non, mais c'est exactement.
Vous n'allez pas être déçu.
C'est comme une pâtisserie ou la cuisine, en fait. La beauté le bon goût qui ressort, en fait, d'une glace, c'est d'abord, en premier lieu, le choix des matières premières. Donc effectivement, on s'attache à choisir une excellente crème, un lait qui vient d'Île-de-France, etc. Et puis après, on source les produits, les chocolats, la pistache, la pure pistache d'Iran, etc., etc. Pour essayer d'avoir le mieux. Parce que moi, au démarrage, j'ai commencé à créer mes recettes dans ma cuisine, donc, un peu comme souvent. Et en fait, mon idée, c'était d'essayer de donner, enfin, ou de vendre, déjà, ce qui était un peu mieux, des glaces, celles que, en fait, j'aurais pu les faire pour mes invités du vendredi soir ou du samedi soir. Donc, d'essayer, en fait, sans réelle considération économique, d'apporter le meilleur, quoi. Après, effectivement, on commence à rentrer dans une logique un peu plus mercantile et on se met à faire attention. Mais en fait, réellement, retranscrire le meilleur du produit, quoi.
Mais d'ailleurs, c'est marrant, vous avez d'abord sillonné Paris avant de vous installer. Vous, un petit test d'abord, on se balade, on est là avec sa petite échoppe roulante et on teste le truc.
Donc on a commencé avec un food truck, oui. Donc c'est un vieux Citroën HY 1966.
Ah oui, très bien.
Donc voilà, à partir du 1er juillet d'ailleurs, il va avoir quelques problèmes pour naviguer dans Paris. Mais effectivement, c'était un premier test puisque quand on a sorti sorbet chocolat wasabi gingembre, donc Black Sugar Sex Magic, c'était un peu c'est un peu un pari de se dire on allait avoir des clients pour acheter ce type de combinaison.
Et surtout que Christophe Michalak, quand il me disait, de toute façon, on peut proposer n'importe quoi, ce qu'on vend toujours le plus, c'est vanille, fraise, chocolat.
C'est en fait, ça fait partie des best-sellers. Nous, il manque piment d'Espelette et Mojito de Tokyo, à consommer avec modération.
Merci.
qui font partie des best-sellers, mais Smoke on the Water et...
Justement, c'est intéressant, parce que nouvelle vague glaciaire, est-ce qu'il y a un nouveau public? Votre public, est-ce qu'il joue le jeu, justement? Est-ce qu'il est curieux, qu'il va aller au Mojito de Tokyo, au Pump Pump the Volume, au Dirty Berry?
Oui.
Ils y vont vraiment ou ils finalement vont, à la ils fin vont. Ils ont pris une goûtée puis non. À la fin tu vas me mettre une vanille.
Ils y vont. Nous on touche en fait une gamme, enfin la famille de, enfin c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans et les gens reviennent. Après le, enfin ce que j'ai découvert c'est que la glace c'est quand même un des rares métiers alimentaires où je suis capable de faire goûter l'intégralité de la gamme gratuitement. Chez le pâtissier, il vous coupe pas un bout d'une tarte avant l'achat.
Alors nous, on peut le faire l'acte d'achat. Alors on va prendre le temps de la dégustation. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve juste après. On verra que d'autres aussi ont fait des petits tests comme ça, en sillonnant, en s'arrêtant, en faisant de l'événementiel. Et aujourd'hui, ils se lancent en grand dans la capitale. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin.
Et Good Luxe vous invite chez Le Glacier. Aujourd'hui, vous avez chez Les Glaciers et vous avez l'embarras du choix. Donc, nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Rion. C'est une glace à Paris. Je donne tout de suite les adresses. Attention, notez. 15 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le 4e, en compagnie d'Henri Guittet, fondateur de Glace Glazed. J'ai compris que je n'avais pas bien dit tout à l'heure. 54 rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement de Paris. Ice Roll, Quentin Bourdonnais, c'est 7 rue de Turenne. Et David Musset, Nitrogénie, c'est très bientôt 158 rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement de Paris. On le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'à côté des pâtisseries des rêves, des Pierre Armé, des Christophe Adam, des Christophe Michala qui font leurs propositions glacées, eh bien il y a toute la scène parisienne qui s'agite. Est-ce que vous connaissez, c'est vrai qu'on aurait pu inviter Scaramouche aussi par exemple, ou les glaces allemandes du 61 rue de l'Ancry et Spaghettina. Ah,
ce qui est intéressant,
aussi,
c'est qu'il y a aujourd'hui
un concept assez marrant.
Oui, les Spaghettina en fait, vous savez, c'est les ice allemandes. C'est
ces
glaces en forme de spaghetti en Allemagne qui date très connues surtout du côté de la Bavière. L'été, on mange des glaces en forme de spaghetti. Ça date des années 60.
Et on rajoute des petites choses.
Ils viennent d'ouvrir rue de l'Entrée, effectivement, une adresse dédiée. Également, vous savez, ces petits mojis, ces petits bouchées glacées japonaises commencent à faire florès non seulement dans les restaurants japonais, mais ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas aussi, j'allais dire, d'international de la conception glaciaire, de la création glaciaire qui commence à faire comme cela, à s'installer à Paris, un peu comme on l'a vu dans la street food. Les gens finalement ils sont passés du burger au tacos, du tacos au banh-mi, du banh-mi, tous les grands sandwichs finalement aujourd'hui dans le réchauffe parisienne du monde. Et bien en glace, on commence à voir comme ça quelques grandes glaces, quelques grands classiques étrangers s'installent à Paris. Spaghetti, c'est quelque chose, hein, rue de l'Ancré.
Spaghetti, là, c'est
on sent quand même que les Allemands parfois ils sont barrés.
Mais les Asiatiques aussi, c'est pas Quentin, Félix et Thomas qui vont dire l'inverse. Vous avez découvert ça lors d'un voyage en Asie en 2013. Ça, c'est Ice Roll. Pour le coup, c'est de la glace roulée, comme son nom l'indique. Mais encore, c'est quoi le principe ?
Donc le principe, c'est qu'on va faire la glace sous les yeux du client. Donc là, en fait, sur une plaque réfrigérée à moins 30 degrés, on vient verser le mix à glace, la base de la crème glacée, et par-dessus, on ajoute la saveur qu'aura choisi le client. Donc là, par exemple, nous, on utilise des purées de fruits frais. Par exemple, on va prendre fruits rouges, on vient mélanger le tout. On peut même rajouter des fruits frais entiers. On vient mélanger l'ensemble sur cette plaque. Une fois étalé, ça va durcir. Et on vient passer la spatule pour en faire des rouleaux.
Mais le mix à glace, la base, il y a quoi dans cette base ?
Ça se rapproche d'un mix à glace traditionnel. Donc c'est du lait entier frais, la crème fraîche et différents types de sucre.
D'accord. Donc voilà. Ça, c'est toujours nature.
Voilà.
Et après, on rajoute les ingrédients par-dessus.
Exactement. Donc là, toute la saveur et la couleur viennent exclusivement du fruit qu'on vient rajouter juste avant la réalisation de la glace.
Ouais. Et ça, c'est pourquoi l'Asie, si vous avez découvert ça en Asie.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est au nord de la Thaïlande que je découvre ce concept-là.
Et là-bas, c'est quelque chose de classique, c'est de traditionnel ou c'est pareil, c'est un concept qui a été créé assez récemment?
Il y a plusieurs, ça doit avoir une dizaine d'années en Thaïlande, il y a plusieurs stands, mais c'est vraiment cet état d'esprit street food qu'il y a beaucoup en Thaïlande. Et donc là, c'était dans un marché, ça restait plutôt archaïque, on peut dire, voilà, à côté d'un spa fish, le gars, il avait une sorte de congélateur bien puissant, et l'idée me semblait très intéressante. Au niveau du goût, il y avait quelque chose à retravailler, mais l'idée de faire la glace sous les yeux des clients, il y avait quelque chose.
Et puis la texture aussi, parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme, vous savez, ces biscuits, ces cigarettes roulées.
Ces cigarettes russes.
Simplement, en plus, c'est même pas tendu, ça donne une autre texture, donc en bouche, j'imagine, une autre appréhension du goût.
Voilà, c'est ça. Donc là, ça permet d'innover sur le process de fabrication, où la glace se faire, mais aussi sur la manière de présenter. Donc là, on est sous une forme bien plus graphique, sous forme de rouleau. Et après, il y a aussi le goût. Il y a une très bonne retranscription de la saveur, vu qu'on vient ajouter le fruit juste avant qu'il soit consommé.
Vous connaissiez Emmanuel ?
Oui, c'est ce que j'allais vous poser.
Le meilleur ouvrier de France.
J'avais vu ça il y a 8, ou 9 ans à Singapour, dans l'hôtel Le Raffle, qui est un lieu magique. Et ils avaient installé un concept comme ça. Ouais.
Et alors, vous
c'est une autre façon de consommer de la glace.
Est-ce que le goût est différent? Vous vous sentez un...
C'est surtout moi, j'attache une grosse importance à la texture, que ce soit en pâtisserie, parce que j'ai fait beaucoup de pâtisserie avant pour des grands noms et pour des grandes maisons, et j'ai toujours été attaché aux textures, parce que je trouve que la texture va donner toute la puissance de la saveur aussi du parfum, du fruit, de ce qu'on veut.
Finalement, les glaces, là, puisque vos petits rouleaux, ils sont posés quand même, on les déguste dans des petits pots.
Dans des ramequins.
Exactement. Mais le fait que jusqu'à présent, la glace classique chez nous, elle était en boule, ça avait cette explication.
Bah, nous, si on
parle. Parce que là, effectivement, c'est plus du tout en boule.
Si on parle d'une glace qu'on fait, que ce soit dans une glace à Paris ou chez toi, je veux dire, on passe le mix dans une machine qui va refroidir et qui va aussi mélanger en même temps. Donc on va lui donner une onctuosité et on va incorporer de l'air. Alors pas autant qu'un industriel, parce que nous, une fois qu'on a incorporé 30%, on est déjà au taquet, hein, comme on dit. Donc voilà, donc c'est toute une alchimie entre la matière grasse, les sucres, l'incorporation d'air qui fait qu'on a une texture qui pour moi doit arriver et doit être très soyeuse en bouche et doit pratiquement prendre une petite cuillère et vous avez la sensation que ça gonfle en bouche. Et là on est sur une autre texture un peu différente. On est sur une texture un petit peu plus cassante, un petit peu plus granité peut-être.
Cassante, je dirais mais c'est vrai que là, il y a une vraie différence sur le fait qu'on n'a pas de foisonnement. On n'incorpore pas d'air. Donc là, c'est vrai qu'il va y avoir une sensation bien plus crémeuse qu'une glace traditionnelle où il va y avoir de l'air. Et donc après, c'est vrai que le fait de... Il y a eu pas mal, justement, j'avais cette sensation-là en Thaïlande où, justement, il y avait d'une part peu d'onctuosité et quelque chose de... un mix à glace qui n'était pas très savoureux avec trop d'eau avec du haut fruit. Donc c'est vrai que là-dessus on a bien retravaillé le mix à glace et en utilisant des purées de fruits on arrive quand même à retrouver une bonne onctuosité dans la glace.
Et puis vous disiez il y a le côté ludique aussi quand on voit faire comme ça, ça marche toujours, hein. C'est comme justement comme la cuisine asiatique. Alors si on va aller encore plus loin dans l'expérience, on va chez vos voisins, en tout cas vos voisins du jour, Nitrogénie, c'est pas encore tout
ils
à fait
loin,
ouvert, rue Saint-Martin dans le 3e, et Nitrogénie, là vous allez encore plus loin parce que vous jouez sur l'azote.
Exactement. Racontez-nous. Alors, c'est un peu le même principe que Quentin, mais comme vous dites, on va encore un peu plus loin, je pense, parce que nous, c'est pas moins 30 degrés, c'est moins 196.
Donc, alors, j'explique le process.
Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le chef pâtissier, enfin, chef cuisinier Eston Blumenthal?
Oui, allons-y. Il y a eu quelques problèmes.
Il y a un restaurant d'œil qui a eu quelques problèmes, mais qui.
Il fallait parfois aller un peu loin.
Qui parlait un peu loin.
La cuisine de l'équilibre, elle est tellement allée loin qu'à un moment donné, ils ont quand même bouclé le bouclard, quoi.
Exactement. Mais bon, c'est. En tout cas, lui, c'est un grand fervent de l'azote liquide, et moi, j'ai découvert ça via lui, mais via un ami cuisinier qui me disait que dans son restaurant, il a quand même travaillé dans un restaurant d'une étoile, qu'ils faisaient toujours leur crème glacée en utilisant de l'azote. Alors pourquoi? Les deux raisons principales, c'est que un, ça permet de le faire immédiatement, juste avant de le servir au client, plutôt que de le garder pendant des semaines dans le frigo.
Ça, c'est chez les mauvais glaciers, hein.
J'exagère, mais pendant des jours. Et du coup, le goût se perd. Et deux, ça permet, en glaçant instantanément, les cristaux de glace, et il n'y a pas d'air, comme disait Quentin. Et du coup, la texture est bien meilleure en bouche, en tout cas, selon lui. Et du coup, je me suis intéressé à l'expérience, et je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas faire ça aujourd'hui pour le grand public? Et en fait, c'est déjà fait, mais pas en France, dans d'autres pays. Et en cherchant un petit peu, vous avez High Cream Café à Chicago. Ça se développe beaucoup.
Certains le font sur l'événementiel aussi.
Certains le font sur l'événementiel en France.
Justement, il y a des petites.
Tout à fait. Vous parliez de moins 196
degrés, exactement. Je crois qu'ils sont plutôt du côté de la
montagne. Non, mais beaucoup. Excusez-moi.
Non, mais parce que ça fait des animations qui fonctionnent bien.
Je ne suis pas un mondain. Je crois à tapis rouge.
Et du coup, je me suis associé avec Nitrogénie, qui sont australiens. Et en fait, la personne, le chef cuisinier, parce que moi, malheureusement, je ne suis pas chef cuisinier, mais le chef cuisinier de Nitrogénie a travaillé avec Eston Blumenthal.
D'accord.
Du coup, il connaissait très bien l'azote et il a pu développer des recettes spécifiques à ce sujet, et notamment des recettes pour la France.
Allez, on va prendre une recette et vous allez nous expliquer comment vous la conseillez.
Alors, comment ça marche? Typiquement, il a créé une recette tarte tatin. C'est une recette, donc comme disait Emmanuel tout à l'heure, il y a trois types de glaces. Il y a sorbet avec des œufs et crème glacée. Nous, on est parti sur la crème glacée, on ne met pas deux pour les mêmes raisons, allergies, etc. Donc on prépare la mixture en utilisant que des produits frais, aucun additif, etc. Même pas de stabilisant, Ce qui fait que du coup, par contre, contrairement à une glace traditionnelle, ça fond un peu plus vite. Parce que évidemment, vous allez chez Amorino, même s'ils disent qu'ils rajoutent rien d'artificiel, il y a forcément des stabilisateurs pour essayer de, pour faire en sorte que la glace ne fonde pas trop vite.
Vous pouvez le dire, forcément.
Voilà. On n'utilise même pas, du coup ça fondra un petit peu plus vite, mais on essaie d'utiliser que des produits frais. Derrière, on met la mixture dans un bol, on met de l'azote liquide à moins 196 degrés devant le client. Donc comme Quentin, c'est un petit côté ludique, ouais. Puisque ça fait de la fumée partout. C'est assez marrant, quand j'étais en Australie, vous avez forcément un attroupement d'enfants autour qui prennent des photos.
Les Australiens.
Voilà. Et ensuite on le met dans le pot et on rajoute des toppings additionnels. Donc typiquement dans la tarte tatin, on rajoute des vrais morceaux de tarte tatin.
D'accord.
Voilà, on a aussi une glace barbe à papa où on rajoute de la barbe à papa au-dessus. On a une glace, la meilleure seller.
Attendez, barbe à papa, comment vous faites avec des produits naturels?
Alors non, ça c'est dans la glace, c'est les produits naturels. Les barbe à papa,
ça pas marche naturel. Pas, on est d'accord.
Et non, la meilleure vendeuse, ce qu'on a, c'est lemon meringue pie, donc citron meringué. Et là, c'est une citron sur laquelle on rajoute une meringue qu'on brûle au-dessus. Voilà, donc tout un show autour.
C'est donc il y a le show, après en bouche, on parlait de texture.
Oui.
Ça donne quel sentiment de texture?
Je pense qu'on est plus proche de celle de Quentin, effectivement, que celle d'Emmanuel et Henri.
J'en avais fait aussi en...
En Trail?
Ouais, dans l'azote.
C'est très
intéressant au niveau du spectacle, pareil. Et après on a des textures qui sont encore, enfin on est sur des textures qui sont différentes.
C'est pour ça qu'on vous a tous invités, parce qu'il y a des choses différentes.
Donc là il n'y a pas d'air et c'est très onctueux, ça ressemble, c'est assez limite un peu élastique en fait, quand vous le prenez, c'est, ils disent en Australie, ils appellent ça sticky parce que c'est très élastique. En fait.
Et y a, du coup il y a 152 000 calories ou pas?
Alors oui, on
est
pas
kiff-kiff.
Non, on est clairement pas, nous chez nous, on a pris le parti de, on n'est pas dans la glace light.
OK.
Non mais enfin, juste pour revenir là-dessus, une glace en général, enfin je sais pas si on va être tous d'accord, mais on est faut pas oublier qu'on est sur du 8% de matière grasse en moyenne, c'est rien.
Ouais.
Non, c'est rien. Prenez un gâteau, une part de gâteau à côté, vous aurez plus de matière grasse.
Ah, d'accord, mais alors, attendez, si je prends. Moi, j'ai repéré quand même.
Il y a
chez
un sorbet, vous n'avez aucune.
Médovic, elle est pas mal celle-là. Crème glacée, fleur de lait. Marbrée, crème glacée, confiture de lait et poudre de biscuit au miel.
C'est tout ce qu'il faut pour bien
elle
vivre.
Elle a l'air topissime, celle-ci.
Elle est topissime.
Il manquait. Oh non, on a oublié. Ça, je veux qu'on en parle. L'omelette norvégienne. D'abord, qu'est-ce qui vous a pris?
Mais c'est un truc de vieux,
l'omelette norvégienne. Mais pas du tout. Alors là, maintenant, excusez-moi, retournez sur votre tapis rouge, mademoiselle. L'omelette norvégienne, d'abord, est un de mes desserts
fétiches. Restez sur le Paris.
Il avait disparu. Comme beaucoup de desserts, ou comme beaucoup de plats qui sont en train d'être revisités, de revenir. Aujourd'hui, je vous promets que l'omelette norvégienne revient en force sur les tables parisiennes. C'est pas un truc de vieux. On va raconter ce qu'est une omelette norvégienne.
De toute façon,
mais pourquoi ça fait florès?
C'est pas un truc de vieux. Et si on prend le principe des glaces, principe des glaces que tu fais, les Chinois les faisaient à l'époque sur des, ils faisaient couler du lait de chèvre avec du miel sur des glaçons.
Ouais, d'accord.
Donc je veux dire, on n'invente rien. Nous, on est là pour, enfin moi, mon parti pris, c'est là pour remettre des choses au goût du jour qui ont été faites parce qu'il y a des choses très intéressantes. Une omelette norvégienne, il n'y a pas mieux au niveau des textures. Vous avez du chaud, du froid, du croustillant, du moelleux, de la glace, du biscuit, du ponché, du.
C'est
vous avez tous les sens en action quand vous mangez ça. C'est un vieux dessert.
Biscuit génois, c'est ça?
Donnez-lui la recette parce que je pense qu'il ne vous laisse pas partir tant que vous n'avez pas la recette.
C'est une crème glacée à la vanille fumée avec des babas ponchés au rhum et dessus une meringue italienne qui passe
et au four
et qui croûte. Voilà, et conforme. Avec un super rhum.
Non, mais c'est super. Non, sincèrement, on parlait du jeu de texture qui est un des grands combats de la cuisine contemporaine. Là, il y a tout. Vous êtes dans le moelleux, vous êtes dans le mou presque avec la génoise, vous êtes dans le fondant avec la crème. Pas la crème glacée, là.
La meringue,
et puis la glace. Non, je veux dire, c'est un jeu de texture, c'est épatant.
C'est extraordinaire. Henri, votre recette préférée?
Non, votre esquimau, Henri.
Ou l'esquimau, là.
Faut nous l'esquimau. Montrer.
L'esquimau.
Ouais.
L'esquimau, oui. En fait, on était parti du principe, c'est exactement ça. C'est essayer de retravailler les esquimaux tels qu'on les connaissait, mais en gérant un petit peu plus les textures. Et en fait, je me suis inspiré d'un voyage au Mexique où ils font des paletas, et où c'est des jus de fruits avec des cubes de fruits, etc. Et on a plus ces textures qui donnent quelque chose d'un peu plus léger. et également des associations un peu plus osées, quoi. Donc on a travaillé là-dessus. C'est pour ça, donc on a lancé ça il y a 2-3 ans. On l'a appelé Skimo pour lui donner un petit côté, s'éloigner un peu de l'Eskimo traditionnel et donner un côté
un peu
plus...
C'est une manière de prévenir ce qui nous attend.
Exactement, un côté un peu plus rock'n'roll. Et on a travaillé au-dessus différents parfums, donc pas mal avec les alcools, absinthe, liqueur de pomme, sur quelque chose qui s'appelle...
La première glace interdite.
Smell like tea. Voilà, et après, donc là on a, j'espère qu'il n'a pas trop fondu.
Ah ouais, c'est...
La mangue, quand même un esquimau, hein.
mangue, cube de mangue, et ici en fait, donc c'est notre sorbet framboise qu'on enrobe avec du chocolat et qui est, je peux
le prendre. Ah, allez-y! Ah, bah, oh là, ouais, il a morflé.
Il coupe.
Mais non.
Mais c'est en tout fondant. Cas, ça ressemble à un esquimau.
Ça ressemble à un esquimau, excité.
Sauf qu'à l'intérieur.
Oui, sauf qu'à l'intérieur, en fait, on a une texture de mousse. Donc là, un peu plus liquide, parce que ça fait.
Elle est chaude, ça, c'est des sunlight.
Mais oui, qui donne, en fait, que ce soit ça, avec la mangue ou ananas, piment d'Espelette, etc.
Eh bien, on ira la goûter, tout simplement, 54 rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement. On vous laisse la glace couler entre les mains. Henri Guittet, merci beaucoup à vous chez Glace Glazed. Emmanuel Rion, on va chez une glace à Paris, 15 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le 4e arrondissement. Merci beaucoup à vous, Quentin Bourdonnais. Ice Roll, c'est 7 rue de Turenne. C'est jusqu'à fin août pour cette adresse-là. Et on attend Nitrogénie le
28 mai.
28 mai 158 rue Saint-Martin dans le 3e. Merci beaucoup à vous, David Musset. Et bonne dégustation. Nous, on se lèche encore les doigts et on vous laisse. À plus tard.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et Godus, c'est l'heure de l'agenda dans une seconde, mais d'abord le livre de la semaine et le livre qui vous emmène un petit peu en balade finalement. Grandville, si je vous dis Grandville, Emmanuel, vous me dites...
Maison Dior,
voilà.
Christian Dior.
Maison Christian Dior, exactement. Et il y a une exposition qui vient de commencer, une nouvelle exposition, Femme en Dior, sublime élégance d'un portrait. Et en fait, c'est Dior par le prisme de ses clientes, donc ses grandes clientes, de Lady Di à Jackie Kennedy, en passant par celle plus récente que l'on retrouve aujourd'hui. Et donc, jusqu'au 25 septembre, dans le musée, vous avez, dans la résidence d'enfance du couturier à Grandville, en Normandie, donc, vous avez toutes ces femmes avec des dessins, des lettres, beaucoup de photographies, évidemment, de ces femmes habillées en Dior entre 1946 et 2016. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Si vous n'avez pas la chance d'aller jusqu'à Grandville, eh bien, vous, voir cette exposition organisée par Florence Muller, vous pouvez toujours acheter le bouquin chez Rizzoli de Laurence Benahim, fondatrice du magazine Stiletto, qu'on connaît un rayon, là aussi sur la mode. Femme en Dior, portrait d'élégance, c'est aux éditions Rizzoli, où on retrouve la duchesse de Windsor, Marion Cotillard et autres femmes Dior.
Gros anniversaire l'année prochaine pour la maison Dior.
Ben voilà, on en reparlera.
On en dit pas plus, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. C'est vrai que c'est indiscret en vérité. La maison est magique, mythique. On parle beaucoup de Saint-Laurent, mais Dior, il y a encore tout un patrimoine, tout un pan de l'œuvre du personnage et de sa vie même qu'on n'a pas encore exploré. C'est vrai que la bibliothèque Dior, elle n'a pas fini de s'enrichir. C'est plutôt bien fait. En plus, Rizzoli, belle maison d'édition.
Et bien voilà.
Ils sont marrants nos chroniqueurs, on voit que c'est le printemps. Hein. Alors les voyageurs sont ailleurs, le chroniqueur bien-être, lui, il est dans les airs. Et puis notre geek, eh ben, il geek. Donc
ouais,
c'est pas grave, mais on saura s'en souvenir. Voilà. Donc on va s'y coller direct pour l'agenda, je crois.
Exactement. Allez, l'agenda. Parti.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
On s'arrête à Pompidou, au centre Pompidou.
Oui, on l'avait un peu évoqué il y a quelques semaines lorsqu'on avait dédié toute une émission.
Mais c'était il y a presque un an en fait.
Déjà, je vois pas le temps passer avec vous. Il y a presque un an, donc on dédie une émission à Pierre Paulin, le grand designer, notamment en présence de son fils qui aujourd'hui fait vivre et activer le patrimoine. On attendait donc cette première grande exposition dédiée à Paulin. Elle vient de commencer jusqu'à fin août du côté de Pompidou donc. Alors c'est une monographie assez simple finalement qui va reprendre 70 pièces. Qui raconte comme cela, un peu en manière de portrait chinois, toutes les façons et tout ce qu'a imaginé Paulin. Alors, pour beaucoup, effectivement, on le rappelle, hein, Paulin, c'était, j'allais dire, le décorateur d'État.
Parce que forcément...
C'est lui qui a travaillé énormément et activé énormément le fameux mobilier national avec notamment les bureaux de l'Élysée de Georges Pompidou.
Et puis voilà, le grand salon, la salle à manger, il en reste un petit peu d'ailleurs. Mais ça ne lui a pas servi cette histoire.
Exactement. Donc du coup, c'est ce qui est aussi ce qu'il y a de bien dans l'exposition, c'est qu'on a tendance un petit peu à l'enfermer là-dedans, alors que Paulin, c'est beaucoup plus vaste. C'est vraiment un monstre sacré. Donc il y a bien sûr cette partie-là de son œuvre et de sa carrière qui est exposée, mais il y a tout le travail. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on voit que quand même, quand on a le génie et le talent d'un Paulin, c'est qu'il y a une évolution. Comme un artiste, vous savez, ce qui est intéressant, c'est parfois de voir les vraies monographies qui montrent l'évolution d'un style. Et cette évolution d'un style, elle va souvent faire écho à l'époque. Si on regarde les premières œuvres de Picasso, c'est bien évidemment, lui en plus, il est bien sûr constitué en période. Et bien là, Paulin, c'est un peu pareil. Donc 70 pièces, faut se laisser souvent poétique. Et c'est surtout très agréable parce que Paulin, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé énormément le mobilier. Aujourd'hui, le design, il va s'incarner et se fourrer partout. Et on a peut-être oublié parfois qu'un designer, ça s'exprime formidablement bien le temps d'une table, le temps d'une chaise. Il y a beaucoup de ces pièces-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un retour. D'ailleurs, dans les ventes, on voit que les retours du mobilier sont forts. Et puis, après Charlotte Perriand, qui avait eu droit à une belle exposition. Et avant, Roger Talon, qui, lui, à la rentrée, va avoir droit à sa grande exposition. Oui, on rappelle, c'est tous des grands Français. Et qu'il faut foncer.
La pièce Tong, justement, par exemple, la langue, des choses. Il avait un temps d'avance, ce qui crée, dans les années 60, des pièces qui vont être éminemment dans l'esprit 70.
Et alors, qui sont aujourd'hui quasi intemporelles.
Exactement.
Puis, on voit qu'il y a un travail de dessin. Plus il avance, plus il est dans la gomme, c'est-à-dire dans l'évidence, dans le travail des purs. Ouais, alors qu'il y a quelques pièces où, effectivement, il faut rappeler, il y a des pièces maîtresses comme ça, souvent chez les designers. Bon, la tongue, c'est quelque chose.
Voilà, et peut-être que vous retrouverez sur Internet, sur YouTube, ou que sais-je, l'émission que nous lui avions dédiée donc, avec Benjamin Paulin. C'était il y a quelques mois, il y a presque un an, c'est bien ça. Émission Good Lux. Allez, ce week-end, il est encore temps, on vous l'a annoncé, on vous en a déjà parlé, mais c'est maintenant qu'il faut y aller. Les journées particulières à LVMH, les portes ouvertes dans les grandes maisons parisiennes, mais pas seulement. Allez, Chaumet, Guerlain, à Chartres, Dior, Moana, etc. etc. Maison Givenchy. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans toutes ces maisons, s'il y a trop de files d'attente, vous pouvez aussi aller à la Fondation Vuitton où ils présentent une exposition Artisan d'art, trésor de savoir-faire, justement qui met en avant tous ces savoir-faire. Vous pouvez aussi réserver un petit pique-nique sur le toit avec le chef du restaurant Jean-Louis Nomikos de la Fondation Vuitton, parce que c'est un petit peu là aussi.
C'est avec raison pour cette fondation, parce que c'est vrai qu'elle est quand même posée.
Je vous rappelle qu'elle est habillée en ce moment aux couleurs de Buren. C'est assez impressionnant.
C'est Buren qui a les honneurs de la fondation. Et puis, vraiment, elle est posée comme ça au cœur du Bois de Boulogne. Donc, c'est vrai qu'on a envie d'être comme cela. Un peu, on l'a vu aussi en extérieur, cette fondation. Puisqu'on rappelle, c'est aussi... moi, j'aime bien, à titre personnel, mais c'est aussi un joli travail architectural.
De Franck Guéry. Allez, un mot sur le flow.
Eh bien, oui, le flow. J'ai commencé l'émission par une terrasse. C'est la belle saison qui commence. En voilà une seconde. Alors là, une terrasse et un peu plus. Ça s'appelle le flow. Nous sommes du côté du pont Alexandre III à Paris, qui devient un petit peu le quai de Seine le plus vivant de la capitale. Depuis 2 ans, il y a Rosa Bonheur qui active l'endroit. Il y a le Faust et qui s'en sort pas mal, même s'il y a eu des hauts débats. Et là, installation du flow. Alors le flow, c'est une manière de péniche. Ça rassemble un petit peu, vous savez, mais de manière beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus designée, au Houseboat d'Amsterdam. C'est tout à la fois une boîte de nuit, un club, mieux d'ailleurs, une salle de concert, mieux c'est qui est déjà passé, ça se passe à fond de cale. Une terrasse, un front row, tout ça sur, effectivement, la péniche. Il y a, ça sera de manière éphémère, une plage, donc sur les quais de Seine, et puis un restaurant. Et un restaurant qui est très attendu, je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi? Parce que ce sont 2 générations de chefs qui orchestrent donc à 87 tables, en manière de brasserie contemporaine. Un jeune passé par le Bristol, ça faisait toujours bien, la Tour d'Argent, et puis surtout Gérard Cagnat. Gérard Cagnat, c'est une star de la cuisine des années 80. C'était l'un des grands noms de la cuisine parisienne et des environs de Paris, de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. On l'avait perdu de vue parce qu'il avait arrêté son restaurant après 30 années d'étoile Michelin. Il était devenu conseiller culinaire. Le revoici qui reprend du service avec un jeune. Et c'est vrai qu'il y avait des plats signatures, dont un qu'on retrouve. Alors, pour moi, c'est un peu émouvant parce que c'est vraiment un plat qui avait marqué son époque. Aujourd'hui, il paraît presque classique à l'époque. C'est une manière un petit peu d'aller discurver comme ça la gastronomie. La terrine de riz de veau et foie gras au pistache, c'était le plat. La signature
mais
de Cagnat.
Mais ça vous pense, ça, le flow
hein ça vous le flow vient d'ouvrir.
Ah bon,
vient d'ouvrir.
C'est dans l'agenda, mais...
C'est dans l'agenda, c'est ouverture cette semaine. En revanche, ce qui va ouvrir, ce qu'on l'espère d'ici 10 jours, c'est la terrasse. Parce que là, c'est pas de ma faute. Vous appellerez Monsieur Météo. Donc tout est ouvert, tout est en place. La seule chose, c'est que la terrasse, c'est une ouverture incessamment sous peu, cette semaine peut-être, la semaine suivante, si le temps le permet.
Allez, je continue ma petite balade au vert pour ce week-end même. Le grand steeplechase sur l'hippodrome.
Je suis content de vous en parler, j'avais oublié.
Ah, ben oui, on avait oublié, on n'en avait pas encore
sur
parlé.
Deux jours, hein.
Sur deux jours, 6000 mètres, 23 obstacles pour la grande course. Et alors, figurez-vous, le gagnant l'an dernier, vous vous souvenez comment il s'appelait ? Le cheval Milord Thomas, il avait donc gagné et il est de nouveau sur la ligne de départ. C'est assez rare pour le signaler.
Faire le doublé, c'est pas rare.
Il veut tenter le doublé.
C'est rare, hein, sur les courses.
C'est la plus belle.
Pour moi, c'est la plus belle, la plus spectaculaire. J'adore Auteuil et puis c'est vraiment la plus belle. Si vous voulez vous initier aux courses, faut d'abord aller à un steeplechase. C'est impressionnant. Faut savoir qu'ils prennent des risques énormes, les cavaliers comme les chevaux. C'est là où on voit que c'est un sport à haut risque.
Voilà, c'est ce week-end,
le sport
c'est maintenant.
De combat le plus violent au galop.
Sur l'hippodrome d'Auteuil. Allez, nous, c'est terminé pour nous, Emmanuel. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais restez encore un petit peu avec nous. Good Luck Paris, c'est pas tout à fait terminé. C'est le best-of dans un instant.